Bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 30 septembre 2024. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Le président Joe Biden se rendra en Angola du 13 au 15 octobre. Il doit visiter le futur chantier de réhabilitation d'une voie ferrée. 2300 kilomètres reliant le port angolais de Lobito à la République démocratique du Congo. Litige entre le Gabon et la Guinée équatoriale devant la Cour internationale de justice. Les deux pays se disputent trois petites îles potentiellement riches en pétrole. Le Premier ministre libanais appelle à un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. En Autriche, pays natal d'Adolf Hitler, l'extrême droite a remporté hier les élections législatives. Et dans notre parti magazine, demain soir aura lieu à New York le premier et peut-être l'unique débat télévisé entre les deux candidats à la vice-présidente et à la vice-présidence des États-Unis. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président Joe Biden se rendra en Angola pour une visite du 13 au 15 octobre. Ce sera le premier voyage en Afrique de la vice de la présidence de Biden. L'Angola bénéficie d'un des plus importants investissements américains dans des infrastructures sur le continent. Le point avec Yacouba Ouedrogo.
Lors de ce voyage, le président Joe Biden va visiter le futur chantier de la réhabilitation d'une voie ferrée reliant le port angolais de Lobito à la République démocratique du Congo et la construction d'un embranchement vers la Zambie. Les 1300 kilomètres de rails de ce couloir de Lobito vont acheminer sur la côte atlantique des ressources comme le cuivre et le cobalt depuis ces deux pays, riches en minerais mais enclavés. En recevant en décembre son homologue angolais João Lourenço à la Maison-Blanche, Joe Biden avait qualifié ce projet de plus important investissement américain de tous les temps dans le rail africain. Paix, sécurité et renforcement de la démocratie seront aussi au menu des discussions du président américain à Luanda, selon la Maison-Blanche. Mais la priorité reste le projet ferroviaire que Washington dit envisager d'étendre vers l'Est jusqu'à l'océan Indien. Pékin s'est engagé en septembre à réhabiliter la Tazara, ligne ferroviaire ouverte en 1976 et reliant la Zambie au port tanzanien de Dar es Salaam.
Les médias au Burkina Faso se font l'écho d'une vidéo diffusée dimanche par la RTB, la télévision nationale, est censée apporter la preuve d'un complot visant à déstabiliser le Burkina Faso. Dans cette vidéo, dont ni la date ni le lieu d'enregistrement ne sont précisés, un homme se présentant comme le commandant Ahmed Kinda, ancien patron des forces spéciales, détaille des rencontres supposées avec des personnalités militaires et civiles, citant le colonel Damiba, l'ancien chef du régime militaire et le journaliste Abdoulaye Barry. Entouré de deux personnes présentées comme ses complices, l'homme assure avoir reçu d'Abdoulaye Barry, qui vit en exil, 80 millions de CFA, dans le but de monter ce complot. Le lundi 23 septembre, les autorités du Burkina Faso ont annoncé l'ouverture d'une enquête contre plusieurs personnalités accusées de tentatives de déstabilisation. Jointe par le service Bambara de la VOA, l'une de ces personnalités, Newton Ahmed Barry, a catégoriquement nié toute implication dans un complot, accusant à son tour les dirigeants militaires burkinabés de vouloir détourner l'attention de la situation dans leur pays. Des personnes peuvent être présumées terroristes sur la base de critères vagues et sans preuves crédibles, s'est inquiété lundi Human Rights Watch dans un communiqué suite à l'adoption en août d'une nouvelle loi sécuritaire par les militaires au pouvoir au Niger. Hilaria Allegrosi, chercheuse principale sur le Sahel à Human Rights Watch, appelle le gouvernement nigérien à suspendre la mise en place de la base de données jusqu'à ce que les critères d'inclusion et autres dispositions se conforment aux normes internationales en matière des droits humains. Le Gabon et la Guinée équatoriale s'affrontent à partir de ce lundi devant la Cour internationale de justice. Les deux pays demandent à cette Cour de résoudre une vieille querelle sur la souveraineté de trois petites îles qui se disputent dans des eaux potentiellement riches en pétrole. Mohamedou Oumfa.
Le différend remonte à 1900 lorsque la France et l'Espagne, alors puissance coloniale, ont signé à Paris un traité fixant les frontières entre les deux pays. Le Gabon soutient qu'un traité ultérieur signé en 1974, la Convention de Bata, lui confère la souveraineté sur les îles, mais la Guinée équatoriale conteste la validité de ce document. Le vice-ministre équato-guinéen des mines et des hydrocarbures, Domingo Mba Essono, a déclaré au tribunal que les fonctionnaires gabonais avaient soudainement brandi ce traité lors d'une réunion entre les deux pays en 2003, prenant la délégation équato-guinéenne complètement par surprise. Selon M. Essono, le Gabon a envahi les îles en 1972 et les occupe illégalement depuis. Le Gabon répondra mercredi. Les deux pays ont demandé à la Cour de décider quels textes juridiques sont valides, pas de dire spécifiquement quelle nation détient la souveraineté sur les îles.
Plus de 25 000 victimes de violences sexuelles ont été prises en charge en 2023, dont 5 provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, selon un rapport publié lundi par Médecins sans frontières. Les équipes de Médecins sans frontières ont en moyenne pris en charge 10 000 victimes par an, d'après ce rapport qui indique que l'année 2023 marque une hausse massive des admissions. Au Soudan, 2 jours d'attaque des paramilitaires soudanais sur la ville d'El Fasher au Darfour ont tué 48 personnes, a indiqué vendredi une source médicale. Les tirs d'artillerie des forces de soutien rapide ont tué 30 personnes et blessé des dizaines d'autres au cours de la seule journée de vendredi, a indiqué une source médicale à l'hôpital universitaire d'El Fasher. Ce bombardement intervient au lendemain d'un assaut sur un marché qui a fait 18 morts et d'autres tués par des éclats d'obus, a indiqué une source ayant requis l'anonymat. 12 Tunisiens qui tentaient d'émigrer clandestinement vers l'Europe sont morts noyés dans le naufrage de leur embarcation au large de l'île touristique de Djerba, dans le sud-est de la Tunisie, a indiqué lundi une source judiciaire. 29 autres ont été sauvés. Une soixantaine de personnes se trouvaient sur le bateau avant le naufrage.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Hezbollah a affirmé ce lundi qu'il poursuivrait sa lutte contre Israël en soutien à Gaza et s'est dit prêt à faire face à une opération terrestre israélienne au Liban en dépit de la mort de son chef Hassan Nasrallah et des coups intenses qu'il subit. Le point avec Eric Manelakit.
Dans un discours télévisé, le numéro 2 du Hezbollah, Naïm Kassem, a déclaré que le mouvement islamiste libanais soutenu par l'Iran va choisir un successeur à Hassan Nasrallah à la première occasion. Malgré une intense campagne de frappe aérienne menée depuis une semaine par Israël et la mort de plusieurs commandants du mouvement, il a affirmé que le Hezbollah était prêt à repousser une éventuelle offensive terrestre israélienne. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a estimé de son côté que l'élimination d'Hassan Nasrallah était une étape importante, mais pas la dernière. La diplomatie est restée la meilleure et la seule voie pour parvenir à une plus grande stabilité au Moyen-Orient, et les États-Unis restent déterminés à faire avancer ces efforts de toute urgence en vue d'une solution diplomatique au Liban et d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a déclaré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken.
En Autriche, 5 ans après avoir connu la débâcle, l'extrême droite a signé un succès historique aux législatives hier, mais sans garantie de pouvoir gouverner. Le point avec Antoine Roger Bolamba.
Savourez ce résultat. C'est un morceau d'histoire que nous avons écrit ensemble, a lancé Herbert Kickl, le chef du Parti de la Liberté, à ses partisans enthousiastes réunis à Vienne. Il a obtenu 28,8% des suffrages, soit un bond de près de 13 points par rapport au scrutin de 2019, selon le décompte de la quasi-totalité des bulletins. Le chancelier Karl Nehmer, leader des conservateurs, arrivé deuxième avec 26,3% des voix, a noté la déception de ses troupes. Laminé en 2019 par un retentissant scandale de corruption dit Ibiza Gate, le FPO a spectaculairement remonté la pente sous l'impulsion de Herbert Kickl. Au pays natal d'Adolf Hitler, il se fait appeler comme lui Volkskanzler, chancelier du peuple. Il a repris à son compte le terme de rémigration, un projet pour déchoir de leur nationalité et d'expulser les Autrichiens d'origine étrangère. Cet ex-ministre de l'Intérieur, âgé de 55 ans, condamne aussi des sanctions contre la Russie. C'est une lame de fond qui confirme partout le triomphe des peuples, s'est réjoui Marine Le Pen, chef de file en France du Rassemblement national.
Ici aux États-Unis, le bilan humain de l'ouragan Helen qui a semé la dévastation dans le sud-est s'est aggravé à au moins 100 morts, ont annoncé les autorités lundi. Face à ce lourd bilan et aux destructions qui ravagent la région, les deux candidats à la présidentielle de novembre, la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump, ont annoncé qu'ils se rendraient dans les États affectés. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Mouamadou Oumfa.
Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a inauguré samedi la cimenterie nationale de Lémi, située à environ 150 km, construite par la Chine. Cette cimenterie est à ce jour la plus grande du pays, avec une capacité de production de 15 000 tonnes par jour. Madagascar a accueilli plus de 150 000 touristes internationaux au cours des 8 premiers mois de 2024, selon le dernier rapport du ministère malgache du tourisme et de l'artisanat. Le gouvernement malgache vise un objectif d'1 million de touristes d'ici 2028, positionnant le secteur du tourisme comme un levier du développement économique du pays. Les banques centrales de Tunisie et d'Égypte ont signé un protocole d'entente dont l'objectif est de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, a révélé lundi la banque tunisienne dans un communiqué. L'accord comporte entre autres le volet du développement, des ressources humaines, des systèmes de règlement et des services de paiement, de la trésorerie et des liquidités.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous.
Bien nous conseiller ici aux États-Unis.
Dikembe Mutombo, membre du Panthéon du basketball américain, est décédé à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer du cerveau. Selon l'annonce faite par la NBA, le Congolais a été sélectionné 8 fois comme All-Star de la NBA, utilisant son énorme gabarit 2m18 pour devenir l'un des plus redoutables bloqueurs de tir de la Ligue. Joint dans le Maryland, Claude Kamana, président de la communauté congolaise de la région de Washington DC, et ami intime de Dikembe se souvient de l'homme. Il dit être encore sous le choc.
Dikembe était déjà à l'hôpital. On s'y attendait et en même temps, on n'était pas préparé qu'il allait nous quitter subitement comme ça. Hein? Parce qu'on savait, les docteurs disaient qu'il était un peu délicat, son état de santé, mais on s'y attendait pas que ça allait être subitement. Moi, je l'ai appris ce matin. C'est son frère, il m'a envoyé un texto. Parce que j'ai appelé, il répondait pas. J'ai appelé l'autre frère, Chitenge, il répondait non plus. Alors, je suis allé, j'ai regardé mon texto, j'ai vu ça, il n'était pas là. Je me suis dit, non, c'est pas vrai, c'est pas correct, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai appelé et c'est là qu'il... Ils m'ont dit quoi? Moi, j'ai dit, mon Dieu.
Le géant congolais a remporté 4 fois le titre de meilleur défenseur de l'année. Dikembe Mutombo était tout simplement le plus grand de la nature. Sur le terrain, il était l'un des meilleurs bloqueurs de tir et joueurs défensifs de l'histoire de la NBA. En dehors du terrain, il s'est donné corps et âme pour aider les autres, a déclaré Adam Silver, commissaire de la NBA, dans un communiqué. Il a joué pendant 18 saisons avec 6 équipes différentes de la Ligue, avec une moyenne de 9,8 points et 10,3 rebonds par match. Il a atteint les finales de la NBA à 2 reprises. La personnalité de Mutombo, avec sa célèbre célébration du doigt, a fait de lui le favori des fans. Après avoir pris sa retraite en 2009, il est devenu le premier ambassadeur mondial de la NBA et a contribué à promouvoir le sport en Afrique. Son ami intime, Claude Kamana, revient sur certains de ses investissements dans son pays, la République démocratique du Congo.
En tant qu'humain, Dikembe, c'était vraiment l'unificateur. C'est lui qui rassemblait tout le monde, toute la famille à Kinshasa, que ce soit ici aux États-Unis. Il va nous manquer. En tant que basketteur, il avait sa signature avec son doigt là. Tout le monde dans le monde du sport, il connaissait ses joueurs. Qui était Mutombo?
Il a beaucoup apporté à son pays, la République démocratique du Congo. Parlez-nous justement de ses investissements pour le développement tout court au Congo.
Il y en a tellement beaucoup. Mais ce que je peux vous dire, il a construit un hôpital moderne qui a beaucoup aidé notre population à Kinshasa. Personnellement, j'ai eu cette opportunité d'aller visiter cet hôpital. Vraiment, c'est quelque chose que nous remercions le Seigneur que Dikembe a pensé. Ça va être une de ses legacies qu'il nous a laissé en tant que Congolais. Il n'y a pas très longtemps, il venait de construire une école en l'honneur de son père, Samuel Mutombo Institute, en Mbujimayi, pour ne citer que ces deux-là.
Claude Kamana, président de la communauté congolaise de la région de Washington DC et ami intime de Dikembe Mutombo.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Togo, une réunion publique au siège de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, parti politique de l'opposition, a été empêchée par des individus non identifiés qui ont exercé une violence sur les organisateurs et les participants. Le député sénégalais Guy Marius Sagna, siégeant au Parlement de la CDAO, la secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, Kafui Adjumagbo Johnson Adjumagbo, député à l'Assemblée nationale, et des journalistes ont été passés à tabac, faisant plusieurs blessés. De Lomé, notre correspondant Kossi Wosso.
C'est une agression d'une rare violence que les invités et les participants à cette réunion initiée par la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, ont été l'objet. Kafui Adjumagbo Johnson, secrétaire général de la CDPA et député à l'Assemblée nationale du Togo, sérieusement molesté, dit ne pas comprendre ce qui s'est passé.
Il y avait une de ces violences dans leur réaction, dans les coups qu'ils nous ont assénés. Ils nous envoyaient les chaises, des briques qu'ils ramassaient, tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour nous blesser et nous mettre à terre. On voyait qu'ils étaient capables de nous tuer.
En séjour dans la capitale togolaise, dans le cadre de la session extraordinaire du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le député sénégalais Guy Marius Sagna, siégeant également au Parlement de la CEDEAO, invité à cette réunion publique, en a eu pour son compte et ne cache pas sa colère.
Ce qu'il faut retenir de la violence d'aujourd'hui, c'est que tous les Togolais sont en sursis. Aucun Togolais n'est en sécurité. Si on est capable d'agresser un député de la CEDEAO qui a deux immunités, une immunité sénégalaise, une immunité de la CEDEAO, et qui est en session ici au Togo, mais qu'est-ce qu'on fait alors aux citoyens togolais?
Des journalistes ont été également prise à partie, rossés de coups, certains grièvement blessés, les téléphones et autres appareils enregistreurs arrachés et détruits. Pour Isidore Akolor, directeur de publication de l'hebdomadaire Actu Express, cette violence exercée sur les journalistes est inacceptable.
Ce qui m'intrigue le plus, c'est l'agression sur les journalistes, nos reporters qu'on a envoyés sur un terrain pour collecter les informations et que ces derniers soient pris comme des malpropres, tabassés et d'autres grièvement blessés. Ça prouve à suffisance. On veut museler la presse togolaise. On a pris le matériel de travail des professionnels médias et jeté dans un puits. Quel cynisme!
Tout en dénonçant cette violence perpétrée au siège de son parti, Kafui Adjumagbo Johnson, la secrétaire générale de la CDPA, affiche sa détermination à œuvrer pour le changement au Togo.
D'abord, je voudrais commencer à dire que j'ai honte pour mon pays. Vous savez, ce qui se passe là n'entame en rien notre détermination. Parce que le Togo, c'est notre pays et c'est nous qui allons le transformer. Le Togo changera. Il faut qu'il change.
Le front Touche pas à ma constitution s'est élevé également vigoureusement contre cette violence et a dénoncé avec la plus grande fermeté les interdictions répétées et injustifiées des activités des partis de l'opposition. Du côté du gouvernement, aucune réaction pour le moment. Kossi Wosso, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
La Journée nationale du cacao a tenu toutes ses promesses en Côte d'Ivoire. Les activités liées à cette journée se sont déroulées du 28 au 30 septembre dans la capitale économique ivoirienne avec pour objectif de promouvoir les acteurs de la filière. Ils étaient plus d'un millier à faire le déplacement pour prendre part à l'événement. Notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenyo, nous fait le point.
Dans ce stand d'exposition, les visiteurs font la queue pour goûter au chocolat 100% ivoirien. Le produit moulu et liquide est ensuite servi dans de petits bols pour les visiteurs qui n'ont pas manqué de l'apprécier. Armel Fofana, visiteur.
Elle est impeccable. Pour nous qui sommes des habitués du chocolat, je le trouve fort que assez intéressant. Voilà, et puis je crois que il peut passer et chez les adultes et chez les enfants. C'est un très bon chocolat.
Félix Archange, visiteur.
C'est une grande fierté. Une grande fierté pour moi de déguster le cacao made in Côte d'Ivoire. Et j'appelle aussi, je profite de cette tribune pour appeler à la bonne volonté du gouvernement, l'État ivoirien, de faire tout son possible afin que le cacao, une grande partie de notre cacao, soit transformée sur place.
Le cacao est transformé aussi bien en d'autres produits dérivés. Ici, dans ce stand, on peut voir des produits comme du savon ou du beurre de karité fait à base de fèves de cacao. Bintou Sibi, transformatrice de cacao.
Les avantages de ces savons-là, c'est 100% naturel déjà, à base de beurre de cacao. Déjà, nous savons que le cacao, c'est un puissant antioxydant qui va travailler sur le vieillissement de la peau. Donc, les bienfaits des fèves de cacao se retrouvent dans les savons qui sont là.
Pendant la foire, nous nous sommes rapprochés également du groupe marocain OCP qui est spécialisé dans la distribution d'engrais. Leur objectif est de promouvoir les producteurs ivoiriens et de participer à l'amélioration de leurs conditions de vie. Louis Coco, groupe OCP.
Je pense qu'on est en plein pied dans le cacao et aujourd'hui, on doit mettre le producteur au centre. Donc le principal défi, c'est comment améliorer les revenus des producteurs de cacao. Et cette augmentation de revenus passe nécessairement par l'amélioration de la productivité et la rentabilité au niveau des agriculteurs.
Les activités de la Journée nationale du cacao se sont étendues sur 3 jours du 28 au 30 septembre au parc d'exposition d'Abidjan. Des milliers de personnes ont pu prendre part à cet événement, le tout dans une ambiance de fête et de célébration. Ange Bijounomignon pour VOA Afrique, Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Le Hezbollah a confirmé la mort de plusieurs de ses commandants, dont Hassan Nasrallah, son chef de longue date, dans une frappe israélienne. Un officier supérieur des gardiens de la révolution iranienne, le général Abbas Nilforouchan, a aussi été tué lors de la même frappe sur le quartier général du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a promis que sa mort ne resterait pas sans réponse. Yacouba Ouedraogo a joint ici à Washington DC Walid Fares, écrivain, professeur et ancien conseiller de l'ancien président Donald Trump.
D'abord, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est la technologie militaire israélienne qui a été développée pendant des années, surtout pendant les clashs qui ont eu lieu avant avec Hamas depuis au moins 10 ans. Ça, c'est un. Et bien sûr, la technologie américaine qu'Israël a pu obtenir, les bus bombers, ces grandes fusées qui peuvent pénétrer plusieurs bâtiments. Deuxièmement, Israël a pu développer des agents, des réseaux aussi depuis des années. Ils ont eu des gens sur le terrain et le plus important, il paraît qu'ils avaient des agents à l'intérieur du Hezbollah.
Quel futur pour le Hezbollah après l'élimination d'Hassan Nasrallah avec certains de ses lieutenants?
C'est une grande défaite, il faut l'admettre, de Hezbollah, mais ce n'est pas la fin du Hezbollah. Ça va, comme on dit, acheter beaucoup de temps pour les Israéliens, peut-être pour qu'il y ait un nouveau changement de politique extérieure américaine. Tout ça va dépendre des élections américaines, mais Israël maintenant a plus de temps pour démanteler pas seulement le commandement du Hezbollah, mais les commandements régionaux. Et aussi, très important, pour convaincre les Libanais, sunnites, druzes, chrétiens et quelques chiites libéraux que maintenant, ils ont le champ ouvert pour demander le désarmement du Parti de Dieu. Mais, bien sûr, si le régime de la République islamique en Iran va envoyer de l'aide, continuer à envoyer de l'argent et aussi, bien sûr, reconstituer les réserves militaires du parti et de la milice, ça ne fera qu'allonger, si vous voulez, la guerre entre les deux parties.
Avant la mort de Hassan Nasrallah, il y a eu celle de Ismaël Haniyeh, le patron du Hamas. Le Hezbollah est soutenu par l'Iran. Comment va réagir l'Iran face à cette situation?
Stratégiquement, Hamas a perdu le terrain. Donc, ils vont continuer comme guérilla. Ils ont aussi perdu un nombre de leurs leaders, y compris Haniyeh. En Iran, ça a été une grande démonstration de force israélienne. Mais le Hezbollah, c'est différent. Le Hezbollah a un champ géographique ouvert entre le Liban, la Syrie, l'Irak et bien sûr l'Iran. Ce qui veut dire que le régime islamique en Iran va continuer à envoyer des renforts et de l'argent à Hezbollah. Mais Hezbollah n'aura plus cette force imminente qui peut bombarder le nord d'Israël. C'est ce que le gouvernement israélien veut accomplir. Maintenant, ils vont attendre les élections. Ils vont voir si la nouvelle administration veut continuer ce qu'on appelle le deal nucléaire, l'accord nucléaire, ou bien si c'est Trump, peut-être, qui va suspendre cet accord et donc joindre Israël, y compris avec les États arabes de la coalition arabe du traité d'Abraham. Et donc là, ça va être défavorable complètement pour le régime iranien. On sera tous attentifs à ce qui va se passer, non seulement durant les élections, mais après l'inauguration en janvier.
Walid Fareza, écrivain, professeur, ancien conseiller de l'ancien président Donald Trump.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici même aux États-Unis, les deux candidats à la vice-présidence se préparent pour leur débat qui sera organisé mardi soir à New York par CBS News. Veronica Balderas Iglesias de VOA examine les thèmes sur lesquels J.D. Vance et Tim Walz vont se concentrer et si le débat lui-même pourrait avoir un impact sur le résultat de la course à la présidentielle américaine. Le récit avec Mouamadou Oumfa.
Le candidat républicain à la vice-présidence, J.D. Vance, a récemment révélé quel sera son principal message aux électeurs lorsqu'il va débattre mardi avec son rival démocrate, Tim Walz.
C'est la candidature de l'équipe des substances, l'équipe qui a un bilan dont nous sommes fiers, au lieu que nous fuyons, et l'équipe qui a réellement un plan, est l'équipe Trump-Vance.
Dans l'émission This Week sur la chaîne ABC, le représentant républicain Tom Emmer a aidé le sénateur de l'Ohio à préparer le débat de 90 minutes qui sera organisé à New York par CBS News.
Il peut parler de l'économie que Donald Trump a réparée et que Harris Biden ont brisée. Il peut parler de la frontière que Trump a fixée et qu'ils ont brisée. Et une fois qu'il aura compris que Tim Walz va juste essayer de dévier, de se lancer dans cette histoire populaire, il le tiendra responsable.
Pour sa part, le gouverneur du Minnesota s'est bien préparé à ce débat et a aiguisé ses arguments. Ses messages aux électeurs se concentrent souvent sur les conséquences des élections du 5 novembre.
Tout est en jeu, pas seulement pour les 4 prochaines années, mais pour les 40 prochaines années.
Les droits reproductifs seront probablement l'une des lignes d'attaque les plus fortes de Walz contre Vance, déclare John Mark Hansen, professeur de sciences politiques à l'Université de Chicago.
Vance pourrait être pressé de savoir si, en tant que président, Trump signerait une interdiction de l'avortement ou une très, très courte période pendant laquelle les avortements pourraient être pratiqués dans tout le pays.
Les électeurs ne devraient pas s'attendre à ce que les deux candidats au poste de vice-président fournissent une analyse détaillée des politiques proposées par leur campagne, a aussi noté le professeur John Mark Hansen.
Les débats sont toujours plus spectaculaires que substantiels. Les candidats sont devenus très, très habiles à s'éloigner de la question qui leur était posée et à aborder plutôt un problème qu'ils souhaitent aborder.
Les électeurs qui seront devant le petit écran mardi pourraient savoir si les deux candidats à la vice-présidence leur apportent un sentiment de réconfort. Mais à moins qu'il n'y ait une sorte d'effondrement comme la contre-performance de Joe Biden face à Donald Trump à la fin du mois de juin dernier, il est peu probable que le débat fasse bouger les lignes dans la course à la présidence des États-Unis.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Monezero, à la mise en onde, Joselle Morissant. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir. Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Brazzaville sur 101.9 FM, 99 FM Abidjan, à Lomé 93.5 FM, 101.7 FM Kankuzo Burundi et bien d'autres encore.
sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.